Merci d'être à l'écoute de RFI. Il est 16h à Paris, 15h en temps universel et 17h à Kiev. Le journal vous est présenté par Gilles Moreau. Bonjour Gilles.
Bonjour Caroline Lachowski, bonjour à tous. Dans l'actualité, l'arrêt de l'aide militaire des États-Unis à l'Ukraine, elle est suspendue sur décision de Donald Trump. Trois jours après sa vive explication avec Volodymyr Zelensky dans le bureau ovale de la Maison-Blanche. Donald Trump, toujours lui, c'est aujourd'hui qu'entrent en vigueur les nouvelles taxes imposées aux grands partenaires commerciaux des États-Unis, Canada, Mexique et Chine. Les marchés financiers dévient. Depuis ce matin, elle redoute une guerre commerciale mondiale. Dans ce journal également, en France, la suite du procès de Joël Le Skouarnec devant le tribunal de Vannes, l'ancien chirurgien comparé pour de multiples agressions sexuelles. Donald Trump, donc omniprésent dans l'actualité du jour, il a mis sa menace à exécution de taxer lourdement les produits des trois grands partenaires commerciaux des États-Unis que sont le Canada, le Mexique et la Chine. On va y revenir. Le président américain, dans le même temps, a ordonné l'arrêt au moins provisoire de l'aide militaire des États-Unis à l'Ukraine en guerre contre la Russie. La Russie qui, comme on pouvait s'y attendre, a réservé un accueil positif à cette annonce américaine, d'autant que d'autres annonces pourraient suivre, comme sur l'allègement des sanctions qui la frappent. En Ukraine, c'est la consternation. Les Ukrainiens accusent le chef de la Maison-Blanche de faire le jeu de la Russie. Correspondance à Kiev d'Emmanuel Chaz.
Dans sa conférence de presse, le Premier ministre Denis Mihal a rappelé que l'Ukraine était prête à signer l'accord sur les minerais rares. Il a aussi dressé un bilan des progrès effectués par l'Ukraine pour assurer sa propre défense, notamment en matière de drones et de systèmes de brouillage utilisés sur la ligne de front, tout en répétant plusieurs fois la gratitude ukrainienne au peuple américain pour l'aide dont l'Ukraine a bénéficié jusqu'à présent. Sans l'aide militaire des États-Unis, la situation va être bien plus compliquée pour les soldats sur la ligne de front. Mais Denis Mihal rappelle qu'il s'agit ici d'une guerre de survie et que les Ukrainiens continueront à se défendre contre l'agression russe. Au sein de la population, la désillusion sur le soutien américain est grande, mais cette décision de Washington était plutôt attendue après la désastreuse rencontre entre le président Zelensky et le président Trump à la Maison-Blanche. Les yeux des Ukrainiens sont désormais tournés vers les autres alliés de Kiev, alors que le divorce avec Washington semble acté pour le moment avec cet alignement de la Maison-Blanche sur l'agenda de Moscou en ce qui concerne les conditions d'une paix en Ukraine. Emmanuel Chaz, qui est RFI.
Parmi les nombreuses réactions à l'arrêt de l'aide américaine, celle de la Pologne. La situation créée par cette suspension est très grave aux yeux du gouvernement polonais. De son côté, Londres reste concentré sur la paix en Ukraine et ne se laissera pas distraire par des annonces. Commentaire de la numéro 2 du gouvernement britannique. La question est maintenant de savoir si les alliés européens de l'Ukraine peuvent prendre le relais. Cette question sera abordée après-demain, jeudi, à Bruxelles, qui accueille. Il y aura un sommet extraordinaire des 27. Comment donner corps au projet de défense européenne? Ce sera l'autre grand point à l'ordre du jour. En amont du sommet, la chef de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a dévoilé ce matin un plan pour réarmer l'Europe. Il permettra de mobiliser près de 800 milliards d'euros pour sa défense. Et puis en France, le gouvernement a redit son opposition à une saisie des avoirs russes gelés pour financer la défense européenne. Ce serait contraire aux accords internationaux, a expliqué ce matin sur France Info. Le ministre de l'économie, Éric Lombard. L'invité de RFI ce matin était Hubert Védrine, ancien ministre français des Affaires étrangères. Interrogé sur le désengagement américain en Ukraine, il y voit le symptôme d'un nouvel ordre mondial imposé aux Européens. Hubert Védrine a aussi développé sa vision d'une nouvelle Amérique. On l'écoute.
Il faut oublier l'Amérique du XXe siècle, Roosevelt, etc. On a affaire à une sorte d'Amérique du XIXe, beaucoup plus forte, mais quand même une Amérique nationaliste, mercantiliste, exporter un maximum, importer un minimum, avec une vision impérialiste nord-américaine qui va de Panama jusqu'au Groenland, avec un désintérêt absolu pour les, disons, la pratique multilatérale de la négociation, donc toute la planète diplomatique et son tchou-tchou par rapport à ça.
Tous les codes, toutes les règles n'existent plus.
Voilà, il n'y a pas d'alliés. Il n'y a que des pays qui ont des excédents commerciaux. Il faut les combattre. Commencer par l'Europe, par l'Europe, la Chine, ouais. Mexique, etc. Quant à la, aux valeurs, entre guillemets, on l'a vu avec Van Samunich, ce sont d'autres valeurs maintenant.
C'était Hubert Védrine, ancien chef de la diplomatie française. Il répondait ce matin aux questions d'Arnaud Pontus. Les marchés boursiers évoluent dans le rouge ce mardi, plombés par les craintes des investisseurs pour l'économie mondiale. Les nouveaux droits de douane américains sont maintenant entrés en vigueur contre le Canada, le Mexique et la Chine. L'administration Trump entend punir ses grands partenaires commerciaux qui, selon elle, n'en font pas assez contre l'entrée de fentanyl, un opiacé, contre les migrants illégaux. Les droits de douane sur les importations en provenance du Canada et du Mexique ont bondi de 25%. Quant à la Chine, c'est une surtaxe de 20% au lieu de 10%. Qui est désormais appliqué à ces produits. Ottawa a immédiatement riposté en relevant les droits de douane de 25% sur certains produits américains. Économie toujours, TSMC, le géant taïwanais des semi-conducteurs qui fournit plus de la moitié de la demande mondiale, va investir 100 milliards de dollars aux États-Unis sur 4 ans. Son directeur vient d'être reçu par Donald Trump à la Maison-Blanche. Washington cherche à éviter de possibles droits de douane sur les importations de puces électroniques. Explication de Myriam Berber.
Pour éviter les taxes américaines et soutenir l'essor de l'intelligence artificielle, TSMC va renforcer sa présence aux États-Unis et construire de nouvelles usines de semi-conducteurs. Pour sécuriser les chaînes d'approvisionnement, Donald Trump, lors de son premier mandat, avait mené l'offensive pour que la production de puces soit rapatriée sur le sol américain. Joe Biden a poursuivi cette politique. Le groupe TSMC a investi 65 milliards de dollars sous l'administration Biden pour construire 3 usines de production en Arizona. Ce nouvel investissement de 100 milliards de dollars devrait servir à la construction de 3 nouvelles usines de fabrication, 2 sites de conditionnement et un centre de recherche, toujours en Arizona. Cet investissement intervient dans un contexte de tension croissante entre la Chine et Taïwan. L'île conservera sur son territoire les procédés de fabrication de semi-conducteurs les plus avancés. Taïwan craint pour sa sécurité en cas d'invasion chinoise si les usines les plus performantes sont basées sur le sol américain.
C'était Myriam Berber du service économie de la rédaction en France. La mort d'une figure de la droite, Jean-Louis Debré, ancien président de l'Assemblée nationale et du Conseil constitutionnel, un proche de Jacques Chirac. Jean-Louis Debré était le fils de Michel Debré qui lui était une figure du gaullisme. Il disparaît à l'âge de 80 ans. Le cyclone Garance a dévasté une partie de l'île française de la Réunion dans l'océan Indien. Le bilan s'est aggravé. 5 morts désormais après la découverte du corps d'un homme. Ce cyclone a aussi fait au moins 5 blessés et provoqué d'importants dégâts. Le procès de Joël Squarnex poursuit au tribunal de Vannes dans l'ouest de la France. Cet ancien chirurgien est accusé de viol et d'agression sexuelle sur près de 300 patients, essentiellement des enfants à l'époque. Durant sa carrière de plus de 30 ans, Joël Squarnex a travaillé dans plusieurs établissements publics et privés. Y a-t-il des liens entre son parcours professionnel et ses penchants pédocriminels? C'est la question qu'a abordée ce matin la Cour. Compte rendu d'audience, Laura Martel.
La présidente revient d'abord sur son départ précipité de la clinique de Loches, dans le centre de la France, pour Vannes en avril 94, alors que son contrat se terminait en août. Or, l'année 94, c'est l'un des carnets intimes que l'accusé a détruit. Il y a ce départ rapide, on parle de litige. Qu'est-ce qui vous a poussé à partir à 400 km? Vous avez pensé avoir été surpris dans vos actes? Interroge la magistrate. Absolument pas, répond Joël Squarnex, qui plaide un conflit avec un collègue. Vous avez essentiellement travaillé dans de petits établissements en mal de praticiens. On peut se demander si vous avez délibérément choisi des structures peut-être moins regardantes, relance la présidente. Nouveau démenti. Les questions s'enchaînent ensuite sur un même thème. Comment l'accusé peut-il se décrire envahi par sa pédocriminalité, assouvi sur ses patients, et soutenir que ça n'a eu aucune incidence sur sa pratique? Ce sont deux choses qui se juxtaposent, répète l'ancien chirurgien qui tente d'expliquer. Je sais que c'est inconcevable et ça ne me dédouane en rien, mais la pédophilie n'a jamais interféré dans mon activité professionnelle, hormis le fait que j'ai profité de mon statut pour commettre des agressions, mais je passais à l'acte sur des patients présents, je n'ai jamais pris de décision médicale pour avoir accès à un enfant.
C'était Laura Martel dans le reste de l'actualité. Cette fois en bref, faste et fanfare à Pékin pour la grand-messe politique annuelle. Des délégués venus de toute la Chine se sont donné rendez-vous pour l'ouverture du principal rendez-vous politique de l'année. La sécurité est renforcée à Pékin avec des policiers en civil et des volontaires âgés arborant des brassards rouges. État stable pour le pape François, enfin hospitalisé depuis 10 jours à Rome pour une pneumonie des deux poumons. Le pape a dormi toute la nuit et continue de se reposer, mais le pronostic vital reste réservé, a fait savoir ce matin le Vatican. Voilà, il est bientôt 16h10 ici à Paris. Il est grand temps de retrouver Nathalie Amar pour le Pont des Arts. Bonjour.
Bonjour Gilles Moreau et à tout à l'heure. sur le pont des Arts dans 30 secondes.